Bonjour à toutes et à tous, il est un peu moins de 17h, 16h59, vous écoutez Au fil des pages. Merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Libertaire et comme d'habitude, nous commençons par un peu de musique classique pour nous évader de cette ambiance un peu sinistre de la société morose. Maurice Ravel aujourd'hui, Miroir, une barque sur l'océan. Frédéric, on envoie Ravel. Bien, oui, une barque sur l'océan, Maurice Ravel, Miroir, c'est toujours un moment délicat, la musique française. J'adore ce compositeur qui a fini sa vie d'ailleurs à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Alors, au fil des pages, une émission proposée par les passionnés du livre, de la lecture. Et aujourd'hui, nous avons au micro et dans le studio Frédéric, Marie, Francis. Ainsi, de 17h à 18h30, les 2e et 4e mercredis de chaque mois, nous avons le plaisir de nous retrouver sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Libertaire, en direct et en podcast. Frédéric, est-ce que nous avons des annonces ?
Oui, très rapidement. Ce dimanche qui vient, nous serons le 27. Oui. Le 27, à partir de 15h30, la causerie populaire libertaire qui sera consacrée à la criminalisation des luttes sociales. Voilà, vous pourrez venir débattre autour de ce thème. Pour l'instant, rien d'autre à signaler. Je redonne le micro à Francis.
Et je hochais la tête parce que c'est Frédéric qui figure parmi les animateurs de cette causerie. Il ne se rappelait plus de la date, c'est pas bien grave. Alors, autre point important, la librairie Publico vient de recevoir, mais alors là, ça fait à peine une heure, le catalogue de décembre 2022, donc il va durer jusqu'au mois de juin, et vous avez dans ce catalogue de très belles références avec des livres dont nous parlerons dans 15 jours, L'Insurgé par exemple, les textes de Séverine, ou encore Émile Pouget, La Révolution par le sabotage, et puis un livre dont nous allons parler, Circuler, de Josso. Alors, au programme de cette émission, eh bien, tout d'abord, pour alimenter le débat, un livre de Léa Hippy, Enfin libre, grandir quand tout s'écroule, au seuil, et c'est Marie qui s'y colle. Ensuite, nous allons avoir, en fonction du temps qui passe, une rencontre avec Sophie Terrade pour son livre « Par-delà nos frontières » qui est paru aux éditions Bastian, c'est tout récent. Ou sinon, eh bien, nous présenterons le livre justement de Josso, que je considère comme étant une très belle réussite. Ensuite, eh bien, une pépite, le livre d'Émile Morel, « Les gueules noires », aux éditions À propos. On en avait parlé rapidement la dernière fois et je souhaite pouvoir l'exposer plus précisément aujourd'hui. Et puis, tiens, une expo, un catalogue. C'était Agnès qui devait nous présenter une exposition « Paris et nulle part ailleurs » au Musée de l'Histoire de l'Immigration. Elle est souffrante et donc je me permettrai, avec son autorisation, de lire son texte. Enfin, Isabelle Abivène, qui devrait nous rejoindre pour son livre « Portrait de Communarde » paru aux éditions Dietmar. Enfin, je souligne Le Monde libertaire de décembre, il sera encore plus copieux puisqu'il y aura un dossier sur l'autogestion dans le prolongement de ce que le groupe Commune de Paris a animé le mi-octobre sur cette thématique justement de l'autogestion. Mais parmi les productions qui sont en quelque sorte animées par le groupe, eh bien dans le numéro de novembre, vous avez un dossier sur la religion avec un article sur le nouveau péril sectaire, un livre que nous avions déjà présenté dans cette émission. Et puis, en octobre, on remonte un petit peu avant, vous avez un article sur un livre du regretté Dominique Khalifa, Biribi. Et c'était un dossier qui portait sur l'armée. Voilà donc quelques éléments. Premier temps pour ouvrir le débat, un livre au titre curieux, Enfin libre, grandir quand tout s'écroule. Alors j'ai cru comprendre que nous étions dans l'Albanie d'Enver Hoxha, un des régimes les plus staliniens et qui vraiment avait mis complètement à part du monde, pourrais dire ça comme ça, sa population. Alors Marie, qu'en est-il de ce livre ?
Alors, ce livre est écrit donc par Léa Hippy. Il s'agit d'ailleurs, je précise, de son premier livre. Donc, il est paru en octobre 2022 aux éditions du Seuil et, je précise également, parce que c'est important, traduit de l'anglais par Emmanuel et Philippe Aronson. Donc, en fait, il s'agit d'une autobiographie politique, écrite avec un regard d'enfant, donc par cette autrice, Léa Hippy, qui est aujourd'hui professeure de théorie politique à la London School of Economics. Donc il s'agit d'un récit qui interroge à la fois la jeune narratrice d'origine albanaise et le lecteur sur la question de la liberté dans un pays, l'Albanie, qui a été particulièrement marquée par l'ère stalinienne, étant donné qu'il constituait le plus fermé des États satellites de l'Union soviétique en Europe. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'Albanie commence à s'ouvrir au reste du monde, notamment grâce au tourisme qui commence à s'implanter durablement dans le pays. Mais c'était loin d'être le cas pendant la dictature qui a été particulièrement éprouvante pour le peuple albanais car elle était très très répressive. Donc le premier chapitre du livre qui fait état de décembre 1990, et dévoile en fait l'immense admiration de Léa Hippy pour Staline à une période où les manifestations des étudiants et des hooligans qui réclamaient la liberté et la démocratie affluaient. Selon la narratrice, la liberté était déjà plus qu'acquise et ce, grâce au socialisme. Tout au long du récit, nous lisons les différentes interrogations, réflexions, doutes et anecdotes de la jeune autrice hein, qui grandit dans une famille d'intellectuels anti-impérialistes qui pourtant détestait aborder la politique à table jusqu'au jour où sa mère décida de libérer la parole et de révéler à sa fille que les révisionnistes du parti étaient aussi tyranniques finalement que les fascistes italiens qui ont envahi l'Albanie pendant la Deuxième Guerre mondiale sous le règne du roi Zog.
Non mais tu veux dire que cette personne défendait Staline ?
Oui, en fait, elle était admiratrice, comme beaucoup de gens du peuple albanais. Hein.
Alors qu'est-ce qui va la faire un peu bouger ou est-ce qu'elle ne bougera pas ?
Eh bien justement, en fait, sa mère lui a fait prendre conscience en fait, de la réalité des choses. Hein. C'est... En fait, pour elle, la liberté, elle était partout en Albanie, malgré la dictature. Enfin, elle, en fait, elle était adolescente à cette période-là. Et elle ne se rendait pas forcément compte de toutes les manifestations qui arrivaient, les étudiants en colère, la répression policière. Elle n'en avait absolument pas conscience jusqu'à, justement, les révélations au sein de sa famille. Et donc, en fait, cet ouvrage, il est très intéressant parce qu'en fait, il nous permet de nous familiariser avec une histoire encore très largement méconnue par beaucoup d'entre nous. Hein. L'histoire de l'Albanie, elle n'est pas du tout étudiée. Enfin, bon, même en fac, elle n'est pas vraiment étudiée.
D'abord, l'Albanie, les gens ne savent pas très bien ce que c'est, connaissent pas le nombre d'habitants.
De manière générale, on ne sait pas vraiment ce que c'est que les Balkans, on a du mal à les situer. Donc, effectivement, il est difficile de savoir exactement ce qu'est l'Albanie. Mais bon, l'Albanie, elle a eu une histoire aussi avant l'ère soviétique, hein, bien sûr. Donc, il y aura effectivement de nombreux rappels historiques. Et puis, à travers la narration de l'autrice, nous avons également un témoignage poignant d'une enfance à Tirana, hein, à la fin de la guerre froide et donc à la chute du bloc de l'Est, avec leur remise en question et la quête à la fois identitaire et intellectuelle qui découleront de cette prise de conscience soudaine que la liberté à l'époque stalinienne n'était finalement qu'une illusion. Léa Hippy nous livre un récit très personnel de sa famille, d'un grand-père militant, d'une grand-père d'origine grecque, des parents qui s'engagent en politique à la chute du mur de Berlin, un journal de la guerre civile qui a été très très rude en 1997. Donc elle va tenir ce journal entre janvier et avril 1997 et donc c'est vraiment très 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 touchant. Et donc pour conclure cette présentation, je vais vous lire un petit paragraphe qu'elle a écrit, qui se trouve dans l'épilogue. Donc, je cite, hein, « Chaque année, je commence mon cours sur le marxisme à la London School of Economics en disant à mes étudiants que la plupart des gens considèrent le socialisme comme une théorie des relations matérielles, de la lutte des classes ou de la justice économique, mais qu'en réalité, une chose plus fondamentale l'anime. Je leur dis que le socialisme est avant tout une théorie de la liberté humaine qui nous permet de nous interroger sur le progrès à travers l'histoire et sur notre capacité d'adaptation en fonction des circonstances, mais également sur notre aptitude à les surmonter. Ce n'est pas uniquement lorsqu'autrui nous dit quoi dire, où aller et comment nous comporter que la liberté est sacrifiée. Une société qui prétend permettre aux gens de se réaliser sans parvenir à changer les structures, les empêchant de s'épanouir, est également oppressive. » Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, ce qu'elle a appris en fait à travers toutes ces années, toute son enfance dans une Albanie, encore très très déchirée, très très, très marquée justement par l'ère stalinienne.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et parce qu'on l'avait vu lors de la présentation de son livre,
Oui. Elle
rappelait que dans sa famille, on utilisait des codes pour se parler, pour qu'on ne puisse pas être dénoncé.
Tout à fait. Et puis, sa grand-mère parlait beaucoup en français, hein, effectivement. Hein, c'était un peu une langue, la langue de l'élite hein, à l'époque, à cette période-là. Et puis aussi, elle disait quelque chose de très intéressant concernant les biographies. En fait, ses parents, quand ils ont entrepris des études à l'université, ce qui leur valait le titre d'intellectuel, En fait, on leur demandait leur biographie, c'est-à-dire que le parti, donc le parti unique, hein, bien sûr, là-bas, voulait savoir exactement le passé des étudiants pour justement pouvoir les caser vraiment selon leur bon vouloir. Voilà, en fait, les étudiants ne décidaient pas vraiment de leurs études, mais ils devaient... voilà, c'était en fonction de ce que le... Bah de ce que le parti voulait qu'il fasse pour être utile.
C'est vraiment un choc quand même, parce que pas très loin de... Enfin, encadré par l'Union européenne, face à l'Italie, eh bien, on avait ce pays qui était enfermé. Alors, je rappelle simplement le... On rappelle le titre,
on rappelle, pardon. Oui, bien sûr. Donc, « Enfin libre, grandir quand tout s'écroule », de Léa Hippy, aux éditions du Seuil, est paru en octobre 2022.
D'accord, très bien. Alors, en attendant, Sophie, eh bien, un coup d'œil à un autre style. Homme de tric et de loi, c'est-à-dire Circuler, un livre de Josso, le caricaturiste Josso, Circuler, aux éditions L'Insomniac en 2022. Alors, les éditions de L'Insomniac nous avaient offert Les Refroidis de Josso, qui, en fait, était un livre avec des squelettes. J'en avais parlé, d'ailleurs, sur le Monde Libertaire. Et c'était une caricature de l'armée, une caricature de la justice. Et là, elle récidive avec un circulé, donc du même dessinateur, au style reconnaissable entre mille, au ton contestataire et si juste dans ses critiques. En couverture, une bouille de flic. Grosse moustache, les yeux exorbités, la pupille rouge, la bouche gueulante, un circulé exempt de nuances. Qui est Josso ? Eh bien, Josso, c'est un caricaturiste affichiste qui côtoie des artistes et des écrivains anarchistes. Il prend pour cible l'armée, la police, la magistrature, bref, les corps constitués, au service de la bourgeoisie. Il collabore à L'Assiette au beurre, le redoutable hebdomadaire de critique sociale de l'époque. Alors, découvrons l'ouvrage. Tout d'abord, le sous-titre. Homme de trique et de loi. Ça va dénoncer dur. Première page, un homme cadavérique, à son cou le foulard rouge des Apaches des quartiers interlopes de Paris, entouré de deux cognes, comme ça qu'on appelait les flics, manifestement on peut craindre pour son destin. Et page suivante, le bourreau a fait son office et le sang éclabousse la guillotine. La tête du condamné est au sol et elle regarde encore celui qui a actionné la veuve, la guillotine. Eh oui, il faut réprimer l'indocile. Et tout est à l'avenant, le flic qui cogne. Si tu rouspètes, c'est à Bibi que t'auras affaire. Dans une répression, un gradé qui gueule, la baïonnette à la main. Où ce quel cochon qu'a gueulé mort aux vaches ? Une double page consacrée au gardien de la paix qui, dans une manif, étrangle une jeune femme, tabasse au sol des individus. Une grande violence se dégage de ce dessin. Et puis un juge, au visage gris, la bouche rouge sang, les yeux ternes qui s'exclament « La justice égale pour tous », mais ils ne doutent de rien, ces utopistes. Et puis, une dernière, un vieux bourgeois qui affirme à une jeune fille « rien de plus amusant que la tête d'un condamné qui attend le verdict ». Alors, quand on lit ce livre, je rappelle, c'est un ensemble de dessins de Josso, eh bien, immédiatement, je pense à Hécatombe, au marché de Brive-la-Gaillarde, de l'ami Brassens. Est-ce que Brassens s'en serait inspiré, se serait donc inspiré de ces dessins de Josso ? Alors, à lire en toute hypothèse, il y en a encore quelques-uns à Publico, ça file pas mal, c'est vrai que ça a du succès, et encore cet après-midi, une dame en a pris un exemplaire, circulé par Josso aux éditions de l'Insomniac en 2022. Frédéric, on va passer Hécatombe.
Au marché. coucher de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside. J'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leurs victimes avaient eu leur compte en d'oignons, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas.
Allô, Sophie Thérade ?
Oui.
Oui, Sophie, bonjour. Bah, écoute, ça fait plaisir de pouvoir échanger comme ça sur Radio Libertaire. Donc, c'est le deuxième temps de l'émission. Nous rencontrons Sophie Thérade, qui est loin. Elle est loin, Sophie, puisqu'elle est dans l'Est, à Thionville, c'est dire. D'où la liaison par téléphone.
Bonsoir, Francis.
Bonsoir. Alors, donc, Sophie, bah, elle a déjà publié, et puis là, surtout, elle a sorti son dernier ouvrage, en attendant le prochain, Par-delà nos frontières, qui sont parus aux éditions Bastian en octobre dernier. Alors, quand on regarde un petit peu sur Facebook, on a l'impression que tu circules pas mal dans le Grand Est.
Alors, c'est vrai que depuis que le livre est sorti, je fais la promotion tout simplement du roman, donc par le biais de dédicaces en librairie et également en participant à des salons de livres.
D'accord, ouais. Et c'est quasiment tous les week-ends, hein, ce que je vois. Hein.
Ah là, c'est très, c'est très prenant. C'est sûr que quand un livre sort, on fait en sorte de le faire connaître. Et donc, on entre en relation avec les librairies, avec les salons du livre. Et comme on a de plus en plus d'opportunités de le faire, on ne s'en prive pas, bien sûr.
D'accord. Alors, donc, tu es passionné par l'écriture, d'où notre rencontre il y a déjà quelques années. Et puis, alors, on va essayer de préciser quelques points. D'abord, qui est Sophie Thérade ?
Ah, ça c'est une bonne question. Eh bien, Sophie Thérade est une auteure qui réside en Moselle, en Lorraine, et qui a publié son premier roman en 2015, et qui publie également des nouvelles, des poèmes, et qui écrit également des paroles de chansons. Donc je suis assez éclectique dans mon écriture, tout comme je suis éclectique dans ma pratique de lectrice.
Alors, c'est vrai que, et on terminera d'ailleurs notre entretien par une chanson. Ce n'est pas ton premier ouvrage, et tu as débuté par des livres pour la jeunesse, je crois.
Oui. Alors, mon premier roman, effectivement, qui a été publié en 2015 aux éditions du Quotidien, qui sont basées à Strasbourg. Alors, c'est un roman qui est destiné à la jeunesse, qui est peut-être lu à partir de 10 ans, qui s'intitule « Un chat sous ma fenêtre », mais qui peut être également lu par les adultes, parce que c'est une histoire un petit peu universelle qui parle...
Naissent les lendemains, entrelacés, mêlés.
Très beau poème, chanson. Merci Sophie, merci de nous avoir fait partager ce moment aussi, ce moment musical. Troisième temps de l'émission, une pépite. Vous savez que j'aime bien mettre en valeur quelques livres, pas forcément très connus, mais qui sont très riches. Et bien là, je vais présenter Émile Morel, Les Gueules Noires, aux éditions À Propos, qui viennent de paraître là. Alors nous sommes en 1907. L'auteur, 22 ans après Germinal de Zola, nous montre que rien n'a changé dans l'affreuse vision de ce que fut, il y a plus de 100 ans, la vie des mineurs de fond. En couverture, Stylen, dessinateur de sensibilité anarchiste, présente un groupe de mineurs avec casque sur la tête, appelé barrette, pique, foulard autour du cou, pipe en terre. Ils marchent sur cette terre plate du nord de la France sous un ciel bas vers leur souffrance. Émile Morel a suggéré cette absorption de l'ouvrier par l'usine qui le dévore, le savoure, le digère et le rejette ensuite sous forme d'invalide ou de cadavre. L'auteur de cette remarque, Paul Adam, établit un lien évident avec Jacques le Croquant de Gêne Leroy, que vous avez peut-être lu, ou La vie d'un simple d'Émile Guillaumin. Dans les deux cas, l'existence des prolétaires des champs. Alors, la toile de fond du livre, c'est le drame de Courrières en 1906 avec la mort de plus de 1000 mineurs de fond. Et Morel décrit par touche, par courtes nouvelles, la vie de ces mineurs, de leur famille. Premier chapitre, la paye, l'attente des femmes, des enfants pour empêcher les hommes de se précipiter dans les estaminets. Et oui, l'alcool, un fléau commun dénoncé si souvent, dont nous avons déjà parlé au sujet de plusieurs livres. Le style de Morel est brut, brutal. C'est du vécu, du reportage, de l'Albert Londres, du Séverine. Ce n'est pas un roman, c'est la vie des mineurs. Vous sentirez la chaleur humaine, le bruit des hommes qui gueulent en ch'ti, les injures, l'odeur. Et puis la vie des femmes, les jeunes filles à la trieuse, la dureté et la répétition du geste qui déchire les mains et les bras, ne pas penser, le geste mécanique. Les visages sont tendus, tristes, mornes, sur les illustrations de Stylen au fil des pages. Et c'est étonnant comme le texte rejoint l'image, une très belle osmose entre l'auteur et le dessinateur. Rien n'est plaqué, du noir, celui du charbon, du blanc, celui du ciel qui se teinte de gris. Et puis, la vie dans les corons. Et puis, on se regroupe donc par affinité politique ou religieuse, par passion, celle des pigeons, des combats de coqs. Le jardin est objet d'attention. Une autre tradition du Nord, le tir à l'arc. Oui, ces pages sont vraiment des moments de sociologie, du quotidien. Et puis, évidemment, vous observerez l'alliance de la bourgeoisie et de l'Église, les pressions exercées sur les médecins de la part des compagnies d'exploitation des mines, car il ne fallait que rien ne change le plus lentement possible. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans les métiers à risque. Et puis vient le drame, le coup de grisou, c'est probablement le moment le plus émouvant du texte. Avec les morts, le quotidien dans les mines, il y a un siècle, c'était ça. Alors, l'ouvrage est complété de documents, de coupures de presse, de photos. L'assiette au beurre, encore, est redoutable. Et j'apprécie particulièrement le texte sur la technique de Stylen et son ressenti. Aux yeux de l'artiste, le mineur incarne le peuple. Ses illustrations sont à voir comme un témoignage empathique et souterrain de révolte face à la condition ouvrière. L'auteur, Émile Morel, le titre « Les gueules noires », illustré par Stylen, aux éditions À Propos, en 2020. C'est vraiment un texte qui doit retenir notre attention. Il est vraiment très intéressant. Alors nous devions, quatrième temps de l'émission, parler d'une exposition. Et puis Agnès, qui a été visiter cette exposition, malheureusement, est souffrante, donc elle ne peut pas le présenter son texte. Je vais donc vous en donner lecture. Alors, l'exposition s'intitule 1945-1972, Paris et nulle part ailleurs. Elle a lieu du 27 septembre 2022 au 22 janvier 2023 au musée de la Porte Dorée, c'est-à-dire au musée de l'histoire de l'immigration, 293 avenue Daumesnil dans le 12e arrondissement. Je conseille particulièrement cette exposition, je conseille aussi le bâtiment lui-même avec une façade qui est tout à fait le reflet de ce qu'était dans le temps le musée des colonies et puis un environnement qui n'est pas des plus désagréables, le bois de Vincennes. Alors une exposition particulièrement bien construite de l'entrée jusqu'à la sortie pour mesurer en quatre mouvements l'influence de ces artistes arrivés à Paris. Eh oui, à Paris. Avec l'image de Paris, soit à la recherche d'un refuge pour des raisons politiques, ou bien pour leur désir d'épanouissement artistique et culturel pendant ces années d'ouverture entre 45 et 72. 24 artistes sont exposés, de diverses origines, Europe, Afrique, Amérique latine, États-Unis, Asie. Ils sont présentés par thème, et une centaine d'œuvres et de collections sont réunies pour nous permettre de saisir les enjeux de cette migration. Premier espace, le thème de l'exil. Un espace plutôt narratif et figuratif, une grande toile. Un homme prend la pose. Arroyo, le peintre espagnol, lui fait porter la tenue de flamenco, une robe noire, et appose à gauche une chaussure de danseuse aux couleurs de l'Espagne, tel un collage de publicité. Rappelons, la dictature de Franco, imposée depuis 1939, utilise cette danse et musique d'origine gitane comme le symbole de l'identité nationale. Et par le travestissement de cette femme en homme, Arroyo détourne les symboles patriotiques et la misogynie imposée par la dictature. Dans le tableau de Dado, la maison à Érouval, on est d'abord transporté par l'harmonie des couleurs douces qui y règnent, puis on est très vite gagné par l'effroi à cause de ces têtes menaçantes sortant par toutes les fenêtres et les portes, l'absence de tuiles sur la charpente du toit pourtant présent. Dado vient du Monténégro et garde un souvenir très douloureux des années de l'occupation par l'Italie, puis par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est suite à des études à Belgrade qu'il rejoindra Paris pour exposer ses œuvres. Espace 2, l'étrangeté du monde. On découvre des assemblages d'objets du quotidien posés sur des tissus, des photos, des illustrations, des collages pour dénoncer la société de consommation. La toile, nommée auto-transformateur des générations, d'Héro, l'Islandais venu en France pour se rapprocher du mouvement surréaliste avec Breton, André Breton, ne laisse pas insensible. Dans ce tableau, il condamne la production de masse où des tapis roulants se croisent à perte de vue et transportent des marchandises au corps monstrueux et où l'humain devient un matériel standardisé. Il révèle ainsi la violence d'un système marchand vouant un culte à la technologie où le quotidien est mécanisé. Non loin de cette œuvre, on voit deux cages à oiseaux remplies de choses curieuses, peu humaines. Des mains qui tricotent au milieu d'objets ou d'organes non reconnaissables. Un portrait dans une autre cage en résine suggère une anatomie en voie de décomposition. C'est fort. L'artiste Kido se représente prisonnier. Il révèle les transformations de l'humain et d'une nouvelle culture, qu'il appellerait une nouvelle écologie. Une nature polluée associant une technologie toute puissante et une humanité mutante. Kido est japonais. Il s'est très vite détaché de l'abstraction conventionnelle et est venu à Paris présenter son travail. Troisième espace, C'est plus dans l'abstraction, avec des œuvres gigantesques de Zhao Wu Qi et Johann Mitchell, que nous rentrons dans un autre monde. Le premier est chinois et pratique l'art de la calligraphie et de la peinture à l'huile. À Paris, il fait son premier geste chirurgical pratiqué sur sa culture en abandonnant la peinture à l'encre de Chine. Joan Mitchell est américaine et au départ passionnée par l'impressionnisme. Elle réussit à venir travailler en France et ses paysages tendront de plus en plus à l'abstraction. Une exposition lui est consacrée à l'espace Vuitton. Nous en reparlerons. Quatrième espace, l'espace dédié à l'art utopique et cinétique, c'est-à-dire un nouveau langage universel. Bien sûr, nous retrouvons Vasarely, ses collages, ses acryliques de couleur, mais d'autres, Carlos Cruz Diez avec ses labyrinthes immenses de plastique et de métal. Vasarely est hongrois. C'est après sa rencontre avec Claire Spinner qu'il s'installera à Paris. Le catalogue, lui, donc voyez, quatre espaces, quatre moments intenses avec des œuvres qui marquent. Et ces espaces sont évidemment, vous pourrez en garder des souvenirs grâce à un catalogue que le Palais de la Porte Dorée a édité et qui met en lumière donc ces 24 artistes étrangers représentés à Paris. On fait le point donc sur le passage de l'art moderne à l'art contemporain. De nombreux créateurs sont déjà installés à Paris, mais voyez, on a ces autres qui viendront et qui pourront s'exprimer. La loi de 1944 permet aux artistes américains d'obtenir des bourses pour venir étudier à Paris. Et ces artistes ne restent pas que sur la scène parisienne, mais ils vont aussi se déplacer à New York, à Bruxelles. Ainsi, l'accent est mis dans ce catalogue sur l'importance de l'internationalisme pour la réalisation d'une carrière. Les salons, les expositions ne cessent jusqu'à la Biennale de Paris en 59, organisée par Malraux. Et cette Biennale relancera la compétition avec la Biennale de Venise et celle de Sao Paulo. Il y aura d'autres occasions pour ces artistes de venir s'exprimer, mais on reste sur Paris, on s'appuie sur Paris, mais après ça, on va ailleurs. Aussi, vraiment, nous insistons sur ce catalogue qui a été écrit avec la contribution de Jean-Paul Emeline, commissaire de l'exposition, Fanny Drujon, docteur E, en histoire de l'art, et Béatrice Joyeux-Prunel, professeure à l'Université de Genève. On peut trouver évidemment ce catalogue au musée, à la sortie de l'exposition, ou à l'entrée, c'est selon. Et vous pouvez évidemment le trouver dans de bonnes librairies parisiennes spécialisées dans l'art. On a le temps, Frédéric, de se passer un morceau de musique. Herbie Hancock et Joni Mitchell, Summertime.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. and take to the sky.
Cinquième temps de l'émission, et dernier temps, un autre dialogue. Et oui, on est gâté en cette fin de semaine et cette fin de journée, c'est que d'habitude, on a un entretien. Là, on a deux entretiens, grâce à la présence d'Isabelle Abiven, qui va nous présenter le livre « Portrait de Communard » publié aux éditions Dittmar. Alors, Isabelle...
Bonsoir.
Donc, les communardes, pourquoi avoir parlé des communardes?
Alors, plusieurs raisons. Je dessine, bon, plutôt enfin, par plaisir. Je suis graphiste, je m'intéresse aux portraits. Il y a 10 ans, enfin même plus de 10 ans, il y a 11 ans, j'ai participé en tant que graphiste à la conception d'une exposition au couvent des Cordeliers, commissariat de Jean-Louis Robert, sur une exposition sur la commune de Paris. Et là, j'ai découvert les portraits de communards, d'hommes et de femmes.
C'était les Amis de la Commune qui organisaient, ou c'était...
Alors,
Jean-Louis Robert avec d'autres...
C'était le comité d'histoire de la ville de Paris.
Ah, d'accord. Ah, oui.
Et avec le commissariat de Jean-Louis Robert. Et là, donc, j'ai découvert ces portraits, ces photos. C'était vraiment... Enfin, pour moi, ça a été un choc, parce que c'est pas des photos, c'était donc des photos prises par un photographe judiciaire, mais c'était pas les photos qu'on voit aujourd'hui, enfin qu'on imagine aujourd'hui ou qu'on voit de très face profil des gens avec un regard vague. Enfin, là, c'était vraiment des portraits posés, etc. Et comme je cherchais des exemples pour dessiner, et ben je me suis mise à dessiner ces femmes et ces hommes.
Et en fait, vous avez une formation autodidacte à la base.
Oui. Oui, oui, en fait, j'ai grappillé un peu comme j'ai pu, enfin, auprès de...
Et vous avez fait des émissions sur d'autres thèmes ou ça a toujours été sur l'histoire, sur le portrait et sur le pastel?
Les croquis? J'utilise que le pastel pratiquement maintenant parce que le pastel sec, c'est tellement pratique.
Pourquoi?
C'est pas cher.
Je suis un bé aussi incomplet là-dessus.
C'est de la craie.
Et donc c'est plus facile.
On dessine, on peut faire des traits fins, des traits épais. On peut utiliser le plat du pastel. On peut utiliser la pointe.
C'est plus malléable.
C'est très malléable. On peut utiliser ses doigts pour frotter et faire des. On peut gommer. On peut fixer et revenir dessus. Utiliser un papier très fin. On n'a pas besoin de papier extraordinaire. Et puis il n'y a pas de séchage, uniquement, enfin il faut le protéger tant qu'il n'est pas fixé. Donc pour moi c'était génial quoi.
Et pourquoi avoir fait les communardes et pas portrait de communard tout simplement?
Eh bien au départ j'avais envie de tous les dessiner. Et puis bêtement j'ai commencé par les femmes parce qu'il y en avait moins. Et finalement... Enfin, il y avait moins de photos. Mais finalement, je me suis dit que c'était aussi plus intéressant quand je me suis mise à chercher un peu leur histoire. Finalement, j'ai trouvé ça passionnant, en fait. Donc, j'ai continué. Là, je ne sais pas, ça fait plus de 5 ans, une petite dizaine d'années, en fait. Peu de temps après l'exposition, j'ai commencé à dessiner. Donc, au fur et à mesure, je cherchais, je trouvais de nouveaux portraits.
Ce qu'on observe quand même à l'occasion des 150 ans, et Hélène qui va prendre le relais après avec l'émission Femmes Libres, on l'a bien vu pour le 150e anniversaire de la Commune, c'est probablement là où la place des femmes est vraiment le plus valorisée.
Ah oui.
Pour le centenaire, c'est les hommes. Pour le 140e, c'est encore les hommes. Et là, la place des femmes, la quantité de livres que nous avons commentés, Hélène et moi, sur différents médias, la place des femmes, c'est fondamental. Est-ce que le fait de les appeler les communards et pas les fédérés ou autres, ça vous a paru normal ou... Parce que vous savez que les Versaillais insultaient et traitaient, vous savez, les communards comme les connards, quoi, tout simplement.
Oui, c'est voilà, ça. Le hard est assez péjoratif, oui.
Ah oui, il est hard.
Mais alors, il y a pas. J'ai hésité, en fait, mais comme c'est le mot qui est le plus connu, et puis finalement, c'est le plus connu. Pour moi, c'était pas si gênant que ça, quoi.
Et il y avait une dame qui a fait un des premiers livres, d'ailleurs, sur les... qu'il les appelait les pétroleuses, carrément.
Oui, hein, oui.
Tu te rappelles, Thomas.
Edith Thomas. Et c'était il y a très longtemps.
Oui, et elle utilisait le terme communard en disant, je l'utilise comme une manière... pour crier ma révolte, pour crier la révolte des femmes. Et c'est ce qui ressort là. Et moi, ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce livre, c'est que il y a les connus. Alors, on va retrouver Louise Michel, Nathalie Lemel, André Léo, Eulalie Papavoine. Et puis, on va retrouver des inconnus.
Oui.
Comment le choix s'est opéré? Le hasard le...
J'ai dessiné tout ce que j'ai trouvé. Tous les portraits que j'ai trouvés, en fait. J'en ai trouvé plus de 100. Là, il y a 101 communardes et les trois filles Marx. Les trois filles Marx sont là parce qu'elles ont eu aussi un rôle. Elles ont eu un rôle aussi. C'était le souhait de Géraldine Dittmar. Et c'est vrai qu'elles ont, elles étaient présentes à distance. Et puis bon, elles avaient des compagnons aussi qui étaient communards. Donc j'en ai trouvé beaucoup, mais pour certaines en fait, on n'était pas sûr du nom. Et puis bon, il y en a certaines aussi qui sont, enfin, en fait, où la photo que l'on trouve, par exemple, enfin, j'ai beaucoup cherché sur Internet en fait, hein, mais l'une d'elles, par exemple, qui aurait été vraiment très intéressante, qui est Herminie Cadol. Mmh. En fait, la photo que l'on trouve n'est pas, c'est pas elle. Mmh. Quand je suis allée donc chez les Corsets Cadol rue Cambon. Ils éditent un ouvrage sur l'histoire de la famille Cadol, et en fait, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de photo d'Herminie Cadol.
Donc, de cette femme qui a inventé
le soutien-gorge.
Le soutien-gorge.
Voilà. Parce que Hélène... En coupant le corset qui était très gênant.
Oui, voilà.
Hélène a fait un article de référence dans le Monde Libertaire l'année dernière.
Voilà. Bon. Et donc, malheureusement, c'est dommage parce qu'elle a une histoire quand même assez extraordinaire, mais qui passe par l'Argentine. Mais en fait, je l'ai pas faite apparaître dans l'ouvrage puisque j'ai pas trouvé de.
Et on a des femmes qui ont des biographies assez importantes, ouais, quand on lit le texte, et d'autres, Louise Loriot, participante à la Commune, emprisonnée à la prison des chantiers de Versailles. Ouais. Et elle a autant de place, cette femme, que quelqu'un comme Paul Minck, journaliste, féministe, internationaliste, redoutable oratrice dans les clubs, et qui, de retour en France, va poursuivre son combat. C'est intéressant.
Ah oui,
et l'ordre, vous l'avez...
C'est l'ordre alphabétique. Et ensuite, c'est leur nom de jeune fille, en fait. C'est pas leur nom d'épouse. Alors parfois elles sont connues, elles sont plus connues avec leur nom d'épouse, comme Nathalie Lemel par exemple. Mais vous savez, j'ai un trou de mémoire sur son nom de jeune fille, mais bon, c'est pas grave. C'était le parti pris.
Et alors on parle évidemment, vous êtes là parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était le dessin. Je trouvais que c'était intéressant de travailler ça. Mmh. Mais il y a aussi Gérard Dittmar.
Gérald,
l'éditeur.
Ouais. Gérald Dittmar, oui.
Bah
oui.
Et puis,
Lila Vautel.
Voilà.
Très important, qui a fait toutes les recherches biographiques.
Voilà. Et qui souligne que, en fait, elle n'avait rien à perdre, tout à espérer d'une insurrection populaire. Elle se révolte contre un ordre social qui les méprise et les exclut.
Oui.
Et Lila fait aussi un lien lance un appel aux femmes d'aujourd'hui, oui, pour se réapproprier cette histoire. Oui. Elle replace l'histoire des communardes dans, oui, la vie d'aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Son texte est très beau, est très intéressant. Effectivement, oui, elle fait le lien, enfin, de ne pas oublier, puis justement d'entendre la force qu'elles ont eue pour se rassembler et mener ensemble un projet qui malheureusement n'a pas vu le jour, mais enfin c'était un beau projet, quoi, un projet très fort.
Alors c'était des photos d'Appert, hein, on en a...
La plupart.
Des frères Appert. Ouais. Et du coup, on ne sait jamais qui a fait la photo, ouais, puisque tous les deux avaient un prénom qui commençait par E.
Oui. Voilà. En plus, oui, tout
c'est
à fait.
Ça.
Mais ces photos et vos pastels sont très modernes. Et ces femmes, ouais, sont très modernes. Ouais. On a des portraits parfois où on dit tiens, on sent le 18e, alors que là elles sont très modernes et vous les avez vues comme telles sur les photos, elles vous paraissaient,
oui,
modernes.
Oui, oui, tout à fait. Alors après, ce qui est étonnant aussi, c'est que je pense qu'ils les ont fait poser. Alors certaines ont dû jouer le jeu, mais évidemment, enfin c'est des... Elles ont gardé parfois une casquette de marin ou bien une autre une casquette de garde nationale. Elles ont des... Alors, C'est, on sent la photo posée, oui. Voilà. Il y en a une.
Elle se prête leurs vêtements, je crois,
oui,
pour avoir l'air digne.
On voit.
Et fière.
Pas mal de. Enfin, on fait des recoupements entre photos pour effectivement, on retrouve certains vêtements. Quelques-unes d'entre elles sont juste recouvertes d'une couverture. Là, c'est terrible. Avec un mouchoir noué, enfin.
Enfin, il faut se rappeler que certaines photos étaient faites, on les sortait des prisons versaillaises.
Oui, c'est ça, elles étaient dans des conditions. Elles étaient donc à la prison des chantiers à Versailles et donc dans des conditions évidemment effroyables comme.
Le visage de Louise Michel est particulièrement. On sent la fatigue, on sent l'épreuve chez Louise. Hein.
Ouais.
Alors, c'est Gérald qui a eu l'idée ?
Et oui, en fait.
Il a vu l'expo.
J'ai exposé. Chez des amis qui ont une épicerie sur le boulevard extérieur au-dessus de la porte de Bagnolet, Saveur en partage. C'est d'ailleurs un beau projet d'épicerie qu'elles ont monté elles-mêmes. Elles ont monté une association. Et en fait, elles m'ont proposé d'exposer mes dessins. Donc j'ai fait un mur de dessins. Avec cette centaine de portraits, il y en a même plus parce que certaines, je les ai dessinées 3 ou 4 fois, donc il y en a pas mal. Et en fait, la fille de Gérald a vu mes dessins et Gérald est passé me voir, je crois que c'était un jour avant Noël ou un jour avant le Nouvel An, enfin bref, c'était l'année dernière et puis c'est parti, quoi. C'était génial, c'est drôle.
Et c'est bien parce que pour les éditions Dietmar, il a un portrait, il a deux livres de ce fait, il a un portrait des communards
fait par un
peintre du sud de la France avec toujours la teinte rouge, j'en avais parlé, et puis dans une précédente émission, et puis le vôtre.
Voilà.
Donc là, on a deux livres, de beaux livres, sur certains, alors donc on utilise le pastel, ok, et puis sur certains dessins, on voit même apparaître le papier, on a l'impression qu'il y a le papier qui ressort.
C'est l'attrait du pastel aussi, c'est qu'en fait, c'est comme si c'est une poudre, en fait, ça va marquer toutes les infractuosités du papier ou de ce sur quoi on dessine. Donc là, c'est génial. On peut vraiment garder la marque du papier.
Ouais. Alors, vous avez aussi cette formule « Tout refuse de se présenter comme victime », la notion de dignité qu'on évoquait. C'est si net que ça. Elle refuse de se présenter comme victime parce qu'elles sont quand même emprisonnées à Versailles. Bon, et c'était quand même dur.
Évidemment, c'est une sensation personnelle, mais je l'ai vraiment senti, oui. Elles sont peu souris, quand même. Il n'y a pas beaucoup de sourires. Mais en fait, il y a des regards assez décidés, quand même. C'est pas...
Oui. Et quand on regarde ces dessins, et quand on voit des photos aussi des femmes espagnoles, j'en ai souvent parlé, notamment le livre Les combattantes qui est sorti chez Sileps il n'y a pas très longtemps, elles ont toujours une attitude de femme digne. Pareil sur l'exposition, l'album relatif à l'exposition Chemin d'exil que l'association du 24 août a publié, ou encore un dernier là que j'ai pas encore présenté, les républicains espagnols à Rivesalt, où c'était quand même un camp de concentration, quoi. C'est pas un camp et toujours ces femmes ont un regard fier, et l'un des enfants qui relate les souvenirs de Rivesalt dit mais nos parents étaient portés par un idéal, par une perspective. Louise, elle est portée évidemment, mais beaucoup d'autres, Paul Minck, Nathalie Lemel, André Léo, bon, qui elle heureusement sera pas arrêtée, mais bon, même dans les prisons elles sont portées par cet idéal. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Vous l'avez vraiment ressenti.
Oui, oui. Enfin, les hommes aussi, d'ailleurs. Les photos. Mais c'est vrai que les femmes, peut-être plus, parce que il y a une recherche aussi de se présenter au mieux, quoi. Enfin,
oui.
Et c'est pas que, pour moi, c'était pas de la coquetterie.
Non, mais c'est que Appert aussi a vendu, parce que c'était, oui, quand même un vrai commerçant, lui.
Oui,
il a vendu les photos des communards, même, oui, il en a fait des grands...
des albums.
Voilà, des albums, mais il les a vendus. Ça a permis, parce qu'il savait que les autres communards, mmh, et communardes allaient les acheter, mmh, ça leur donnait des informations sur le fait qu'ils étaient en vie aussi, enfin, oui, voilà. Et donc, il y a eu tout un, mmh, commerce.
Oui, oui.
Et à l'intérieur, elle savait qu'il fallait bien se présenter, mmh, pour que, au moins, okay, la famille,
oui,
etc. Oui. On n'avait pas Internet à l'époque, hein, et on n'avait pas, oui, le téléphone.
Oui,
donc c'était aussi un moyen de communication.
Okay.
Oui. Bien et sûr. Puis, c'était aussi des femmes très simples. Je vois, il y avait, oui, des tailleuses d'habits, lingères, cordonnières, oui, cardeuses de matelas, fabricantes de casquettes. Louise était une exception dans cette affaire. En tant qu'institutrice, c'était des femmes du peuple.
Beaucoup.
Puis certaines auront des parcours étonnants, comme Marie Bonnevial, qui après la Commune va donner des cours aux Bourses du Travail,
oui,
et qui va finir grande maîtresse du droit humain.
Alors
où
elle
sera initiée, oui, indirectement Louise Michel. C'est assez,
oui,
c'est assez
elle
étonnant.
Elle était à Lyon. Elle était à,
oui,
elle était à Lyon.
Oui.
C'est la seule que j'ai trouvée.
Alors donc, on va rappeler le titre, Portrait de Communarde. Alors, les pastels sont d'Isabelle Abiven, les notices biographiques de Lila Vautel, édition d'Itmar, 2022. J'ai eu Gérald, il n'y a pas très longtemps, au téléphone, qui me disait qu'il allait passer en déposer quelques-uns chez Publico. Il m'a dit, je connais l'adresse. Donc, il pourra en déposer, on l'accueillera avec plaisir.
C'est sûr qu'il connaît l'adresse.
C'est
parce
sûr
qu'on connaît l'adresse. À Publico, on vend énormément d'ouvrages d'Itmar.
Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. On a trouvé... Pour illustrer ce petit entretien, la Commune, sur des paroles d'Aristide Bruand, interprétée par Georges Brassens. C'est parti.
La chanson de la Commune aussi était chouette. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. C'est la Commune qu'on vient de proclamer. Chacun, chacune, pour elle veut s'armer. Debout, Paris tressaille, debout. C'est la bataille, debout. Paris tressaille, debout. Mais la défaite est proche, le jour fatal approche. Mais la défaite est proche, le jour fatal approche. Nos cœurs succombent, fusillés par rangées devant leur tombe. Jurons de les venger, debout. Pas de lutte brève, debout. Guerre sans trêve, debout. Pour notre rêve, debout.
Alors, eh bien, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle que la librairie Publico vient de recevoir son catalogue, les dernières parutions. Donc là, vraiment, vous avez de quoi faire. Et dans 15 jours, c'est-à-dire le mercredi 14 décembre, une émission consacrée à une femme exceptionnelle. Encore une femme, la journaliste Séverine.
Wow.
Exceptionnelle, à l'occasion de la publication du livre Séverine, l'insurgé, un recueil d'articles passionnants, sélectionnés par Laurence Ducousseau-Lacaze et Sophie Muscanèze, publié aux éditions de L'Échappée. Donc nous recevrons ces deux... On ne peut pas dire que ce sont des personnes qui... Ce n'est pas des autrices, puisqu'elles tiennent à dire que ce sont des articles signés par Séverine ou sous pseudo. Mais voilà, c'est elles qui ont fait le choix. Alors d'ici là, écoutez, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite évidemment ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt. Merci Isabelle Abiven de nous avoir rejoints. À bientôt et au plaisir de partager. Léo Ferré.
cravate. À l'aube des contrates et le remords des coups de jatte, avec la peur qui prend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile fait plier les imbéciles, et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu